Nous sommes dans la dernière partie de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, nous allons voir que la Bible est très pratique. Elle est bien sûr spirituelle. Nous allons parler de la prière et nous allons parler de notre occupation, de notre travail, de notre job. Et là aussi, nous avons des leçons à recevoir de la parole. On va lire ensemble à partir du verset 1 du chapitre 3. Voilà, je lis donc dans la version second révisée à la Colombe. « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez ce que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. » Nous allons nous arrêter là pour commencer ces quelques versets. Le contexte, nous l'avons rappelé, juste encore une fois, Paul avait, lors de son deuxième voyage missionnaire, démarré une église dans la ville de Thessalonique, en Macédoine, au nord de la Grèce, ville qui existe toujours, ça s'appelle maintenant Salonique, c'est une grande ville, capitale de la Macédoine. Et il avait dû fuir la ville sous la poursuite de persécutés par des juifs religieux. Et il n'était resté que 3 sabbats, donc on pense qu'il est resté un temps très court à Thessalonique, mais il avait enseigné cette congrégation nouvelle, ces personnes qui avaient écouté ce qu'il disait, et il avait laissé une petite église derrière lui. Et là, Paul, à son habitude, veille sur le devenir de ces églises qu'il a implantées. Il leur écrit une première fois, c'est la première lettre. Il y avait des fausses doctrines qui s'étaient répandues après son départ, et il devait mettre au point les choses concernant la fin des temps. Il se trouvait que certains pensaient que la fin du monde était arrivée et que l'Église avait été enlevée et que eux étaient restés derrière. Paul doit écrire une deuxième lettre parce qu'il a des nouvelles que ça continue, qu'il y a des problèmes, que certains sont découragés, sont même désespérés parce qu'ils pensent avoir raté l'enlèvement de l'Église. Il faut toujours essayer de se remettre un peu dans le contexte des choses. Les chrétiens de Thessalonique avaient un pasteur qui avait sans doute moins d'un an d'expérience. Ils avaient étudié ensemble tout le Nouveau Testament. C'était la lettre de Galates. Et c'est tout. Ça faisait des semaines qu'ils étudiaient Galates à fond. Et là, ils reçoivent une deuxième lettre, une première lettre et une deuxième lettre de l'apôtre Paul. Et là, c'est la joie. Ça y est, on a un nouveau texte. Mais Paul réalise qu'ils ont reçu aussi des fausses lettres et que on lui a attribué une lettre, ça c'est dans 2 Thessaloniciens 2:2, oui, et qu'il doit corriger les choses et il leur rappelle ce qui doit se produire avant la fin du monde. Il parle donc de choses très, très importantes au niveau de la foi, l'avenir spirituel, l'avenir de la foi. Mais là, on va voir que dans notre chapitre, d'abord il commence par demander la prière à cette jeune congrégation. Priez pour nous. le grand apôtre Paul, qui va par la suite produire presque la moitié du Nouveau Testament, avec 13 lettres sur 27, demande la prière. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il demande comme prière. Nous avons tendance à demander la prière pour avoir du beau temps pour la retraite, avoir de la prière pour pouvoir obtenir ce job pour lequel on a un entretien la semaine prochaine. Et tout ça, ce ne sont pas de mauvaises choses. On peut porter à Dieu toutes nos requêtes, tous nos soucis, et je vous invite vraiment à le faire. Plutôt que de stresser, plutôt que de vous faire du souci, de manquer de sommeil sur des choses qui vous arrivent dans votre vie, donnez ces choses à Dieu. Portez-les dans la prière au trône de la grâce. Et laissez Dieu faire sa volonté. Que sa volonté soit faite et vous pouvez avoir une paix incroyable. Une paix que le monde ne connaît pas. Mais là, Paul, il prie, son souci, c'est que la parole du Seigneur progresse. Qu'elle se répande, qu'elle soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Est-ce que la parole est glorifiée chez nous en tant qu'Église? Est-ce que la parole, encore plus important, est glorifiée dans votre vie? Est-ce qu'elle se répand dans votre vie? L'idée, là, c'est qu'elle se répande rapidement. Est-ce que la parole de Dieu, elle se répand rapidement dans votre vie? Est-ce qu'il y a une soif de lire la parole, de la comprendre, de l'étudier, de la mettre en pratique, de la mémoriser? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites quand vous avez un peu de temps le dimanche matin? Puis le reste du temps, vous êtes trop occupé à des choses importantes pour vous y plonger et être rafraîchi par cette parole. Nous sommes composés, je crois, à 90 ou 95% d'eau physiquement. Et l'eau est vitale pour l'être humain. Buvez davantage d'eau. Buvons tous davantage d'eau. On ne boit pas assez. Physiquement, les résultats, les statistiques sont invraisemblable. On dit que si vous buvez l'eau qui est recommandée ou si vous buvez 5 fois par jour une bonne quantité d'eau, les risques de cancer du sein sont diminués de 79%. Les risques d'autres cancers sont diminués de façon dramatique. L'eau, c'est quelque chose d'essentiel pour la santé physique. Et la parole, c'est l'eau pour notre âme. Et c'est aussi important pour nous de recevoir cette parole, de la lire, de la méditer, d'en parler. Si je dis quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord ou que ça vous suggère une autre idée, parlons-en après le culte. Étudions-la, nous avons l'opportunité le mardi soir de plonger, d'avoir des questions qu'on étudie, sur lesquelles on réfléchit. La parole est essentielle pour votre santé spirituelle. Paul prie donc pour que cette parole, elle se répande partout. Il y a des tas de choses qui se répandent partout. On appelle ça des buzz. Ça circule sur Facebook. Il va y avoir une vidéo que tout le monde va vouloir regarder parce que c'est marrant. Est-ce qu'on a le même souci de partager des vérités bibliques valables pour votre éternité? Il prie aussi pour être délivré. Donc là aussi, il a un souci. Il y a ses persécuteurs, des gens qui se disent religieux mais qui n'ont pas la foi et qui le persécutent, ils sont insensés et méchants. On a vu que, en étudiant Romains, que celui qui ne cherche pas Dieu dans sa vie, c'est un insensé, c'est un imbécile. Vous avez un patron qui se moque de vous parce que vous sortez votre Bible au moment de repos que vous avez peut-être, des petits breaks que vous avez dans votre travail. Il se moque de vous, dites-lui, vous savez ce que dit la Bible ? Si vous ne cherchez pas Dieu, vous êtes stupide. Il va dire, tu vas voir si je suis stupide. Mais c'est la vérité. Priez pour lui. Priez pour que la parole, priez pour que les gens autour de vous soient réceptifs à la parole. C'est incroyable. Souvent, en tant que pasteur, on a la possibilité aux enterrements, aux mariages, d'annoncer la parole, d'annoncer des passages de la parole à des gens qui n'ont aucune idée de la richesse de la Bible. Et ce qui me frappe toujours, c'est le nombre de personnes qui viennent me voir après, qui disent « C'est incroyable tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que c'est vrai ?» C'est intéressant. N'imaginez pas que les gens autour de vous ont une connaissance de la parole. La plupart sont complètement illettrés. Et vous pouvez partager, vous pouvez offrir un petit calendrier avec des versets au début de l'année. Et vous verrez que ces gens qui se disent non-chrétiens, athées, l'année d'après, ils vont vous demander « Dis-moi, ce petit calendrier, tu pourrais pas m'en offrir un autre ?» La vérité, c'est comme de l'eau. Et les gens sont assoiffés de vérité. On vit dans un monde pollué par le mensonge de A à Z. Paul réplique, ou plutôt continue, en disant « Mais le Seigneur est fidèle ». Il y a tous ces sujets. Il se réjouit de ce qu'ils honorent la parole de Dieu, qu'ils aient une soif de lire toute la parole qu'ils ont, la lettre de Galates et la première lettre aux Thessaloniciens. Mais il sait qu'ils ont soif de l'Ancien Testament, qu'ils lisent, qu'ils étudient avec ferveur. Il dit, de toute façon, on prie, mais on sait que c'est pas notre fidélité qui va faire avancer les choses, c'est que le Seigneur est fidèle. Et ça, c'est un grand soulagement. Nous sommes appelés à collaborer avec le Seigneur, mais c'est lui qui fait tout le travail. C'est lui qui donne la soif. C'est lui qui va provoquer l'intérêt chez vos voisins, chez vos collègues de travail, lorsque vous allez dire un verset biblique en disant, tu sais que la Bible dit, je ne te laisserai pas seul, je serai toujours avec toi. Est-ce que tu connais Dieu ? Et Paul, à son habitude, encourageait ceux qui étaient sous sa responsabilité. Nous avons à cet égard, à votre égard, cette confiance dans le Seigneur que vous allez faire ce que nous vous avons demandé et que vous le faites déjà. Paul fait confiance à Dieu pour encourager cette Église. Nous pouvons nous encourager les autres, les uns les autres, en sachant que le Seigneur est à l'œuvre. C'est lui qui bâtit l'Église. Si c'est pas lui qui fait le travail, alors nous travaillons en vain. Il est dit par ailleurs dans la parole. Vous ferez ce que nous recommandons. Et puis verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Ça, c'est une belle prière que vous pouvez prier rapidement pour quelqu'un. Ou lorsque vous écrivez, je ne sais pas si vous, souvent on envoie une petite lettre à des missionnaires ou à des personnes qui ont besoin de réconfort, 2 Thessaloniciens 3:5. Les gens vont aller voir que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. La patience, l'amour de Dieu, cet amour qui n'est pas mérité, cet amour qui est infini, qui est ouvert, qui a pour objet tous les hommes, toutes les femmes, les croyants, les non-croyants, les bouddhistes, les musulmans, les animistes, les chrétiens. Cet amour qui est pour tous les hommes, que vos cœurs soient dirigés vers cet amour. Et puis la patience du Christ. Certains parlent de l'attente patience du Christ. La patience, c'est pas quelque chose de passif, comme on peut être patient dans les grèves des transports. On n'y peut rien, on reste sur le quai de la gare, les trains n'arrivent pas. Quand ils arrivent, ils sont bondés, on est patient. Mais c'est pas ça la patience du Christ. C'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose où on se tient debout sur quelque chose de difficile et on continue d'agir. La patience pendant les grèves, ce serait d'organiser des moyens alternatifs, de dire c'est la grève, je vais prendre ma voiture ce matin et je vais aller chercher des gens qui sont à l'arrêt du bus. Ça, c'est la patience dont il est question. C'est une patience active. On se soumet tout en proposant autre chose, tout en résistant, tout en servant les autres. Donc, cette première partie, Paul parle de la prière, de l'importance de la prière. Et je remercie Dieu pour tous ceux qui prient pour moi, pour ce ministère, pour vous. Alors peut-être vous dites, tiens, c'est vrai, j'ai jamais prié pour Pierre. C'est le pasteur, il connaît la Bible, il n'a pas besoin d'aide. En fait, je crois que j'ai déjà partagé il y a quelque temps sur Facebook une jeune femme s'est présentée en disant qu'elle était passée à Nice, ici à l'église, il y a peut-être une dizaine d'années. Je la connaissais, c'était l'amie de quelqu'un que j'avais rencontré, mais sans plus. Je me souvenais pas d'elle. Mais récemment, elle m'a annoncé dans un petit message de Facebook que depuis sa visite, elle n'avait pas cessé de prier pour l'église chaque jour. Alors, je pense pas qu'elle passe une demi-heure, mais elle doit avoir une liste de sujets de prière. Et ça vous rend humble. Vous réalisez qu'en fait, tout ce qui peut se passer de bon, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de spécial, quelqu'un de doué, c'est parce que d'autres personnes prient pour vous. Et je vous encourage à prier les uns pour les autres. Quand le nom d'une personne apparaît sur votre liste de téléphone, priez pour la personne. J'ai sur mon ordinateur, lorsqu'il est inutilisé pendant quelques minutes, il y a un écran qui va apparaître. Un sauvegardeur d'écran, un screensaver. Comment on dit en français? Un écran de mise en veille, quelque chose. Et au lieu de mettre un truc proposé par le constructeur, où il va y avoir des tuyaux, des petites bêtes qui bougent partout, j'ai branché mon fichier photo. Et vous avez peut-être remarqué que je prends quelques photos de vous. Merci pour votre patience. La patience passive. Ce qui fait que si je laisse mon écran inutilisé, l'ordinateur inutilisé pendant un moment, vos visages apparaissent. Faites-le. Et vous pouvez, vous voyez la tête d'un tel ou d'une telle apparaître. Priez pour la personne. L'ordinateur au service de Dieu, de la foi. La prière, l'importance de la prière. C'est l'économie du chrétien, sans la prière, c'est la faillite. La prière, c'est vital. La parole et la prière. Là, on commence à parler. Ça commence à être puissant. Mais on va voir que dans le reste du texte, après avoir parlé de choses fondamentales, spirituelles, la prière, la parole, Paul parle de choses très pratiques. Paul va nous parler de comment nous devons nous comporter au boulot. Lisons à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu nous donner en nous-mêmes un modèle, vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car que lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ce qui se passait, c'est que suite à ces fausses rumeurs, ces faux enseignements, des lettres qui étaient soi-disant de Paul et qui annonçaient que l'Église avait été enlevée, ce qui voulait dire que ceux qui étaient derrière n'étaient pas sauvés. Certains pensaient que Christ allait descendre sur la terre, qu'il allait venir prendre tout en charge. Et certains s'étaient dit, c'est imminent, c'est plus la peine de travailler, on s'arrête, on attend le Seigneur. Le Seigneur va peut-être enlever son Église, se disaient certains, on sera mieux placé si on est sur le toit de la maison. On ne va pas aller au travail, on va se préparer. Et du coup, ces gens-là ne gagnaient plus leur vie. Et du coup, ces gens-là, parce qu'ils avaient toujours des besoins physiques, étaient à la charge de leurs frères qui, eux, travaillaient. Ils profitaient des autres. Et Paul dit, ça ne marche pas comme ça. Si vous pouvez travailler, vous devez travailler. Notez bien qu'il ne dit pas, lorsqu'il dit, si quelqu'un, verset 10, si quelqu'un ne veut pas travailler. Il ne dit pas si quelqu'un ne peut pas travailler, il y a des raisons, ça peut être des raisons de santé, des raisons de permis de travail, ou des situations particulières où les gens ne sont pas en mesure de travailler. Mais si vous pouvez, alors travaillez. Parce que si vous pouvez et que vous ne voulez pas, normalement, on devrait vous laisser mourir de faim. C'est dur, mais c'est logique. Pourquoi est-ce que ceux qui ont la capacité de travailler alors que vous l'avez vous-même devraient vous soutenir et vous donner à manger? Encore une fois, il y a tous les cas particuliers où qui ne sont pas en question ici, mais si, pas de travail, pas de nourriture, si vous pouvez travailler. Alors c'est vrai qu'on vit dans une société où les gens disent « Oui, mais si je travaille, je vais recevoir moins d'argent parce que j'aurai plus cette allocation. » Ça, il faut prier pour notre pays. Je ne sais pas si vous avez remarqué que notre pays a besoin de prière. Toutes les démocraties ont besoin de prière parce que on a remplacé la déclaration de Dieu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et les devoirs, ils sont absents. Dieu nous rappelle, la parole est équilibrée. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. Dieu s'occupe de nous, mais nous avons une responsabilité de servir ceux qui nous entourent. Il y avait donc ces personnes qui ne travaillaient plus, et il les compare à des gens qui vivent dans le désordre. Et l'idée, c'est un peu comme dans une armée qui marche au pas, et il y a quelqu'un qui ne marche pas au rythme des autres, qui n'est pas dans le pas. C'est ça, vivre dans le désordre. Vous allez dire, ouais, mais c'est le conformisme intégral, là là là. Non. L'Église, on peut la comparer à plein de choses, à un corps, à une famille. C'est aussi une armée. Il y a du terrain à prendre pour le Seigneur. Et si l'Église s'occupe de personnes qui pourraient s'occuper d'eux-mêmes, c'est autant d'énergie, de ressources qui ne sont pas mises au service de l'avancée de la parole et du service des autres qui ne connaissent pas Dieu encore. Et il dit à l'Église, éloignez-vous de ces gens qui vivent dans le désordre, éloignez-vous de ces parasites, parce que c'est ce qu'ils étaient. Au nom de choses spirituelles, ils exploitaient la bienveillance de leurs frères et sœurs. Paul peut se citer en exemple. Il dit, regardez-moi, vous savez que quand j'étais chez vous, j'aurais pu, parce que je suis un serviteur de Dieu, j'aurais pu, et la parole dans plusieurs passages, 2 Timothée 5, 7 ou 1 Timothée 5 parle du fait qu'un travailleur, c'est 1 Timothée 5, 17, que les anciens, c'est quelques pages plus loin, page 239, il donne des conseils à Timothée, un jeune pasteur, que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Ceux qui travaillent pour annoncer la parole ont droit, l'Ancien Testament, Jésus l'a dit, à recevoir des biens de la part de ceux qui sont enseignés. Mais Paul, pour ne pas prêter le flanc à des critiques qui auraient dit « Oui, en fait, c'est un gourou. Il vit de l'argent de ces pauvres ouailles qu'il a trompées. » Non, il se faisait un point d'honneur de travailler et de subvenir lui-même, par la grâce de Dieu, à ses ressources. On sait, par ailleurs, que son travail principal, c'était de fabriquer des tentes, du camping. Aujourd'hui, on disait le camping, c'est Trigano, à l'époque, c'était Paul, c'était Aquilas qui façonnait, qui cousait les tentes. Et il dit que il travaillait, c'était un labeur, c'était un travail dur. Il n'y avait pas de machine à coudre. Et pas de nylon léger, ça devait être sans doute des peaux de cuir qui étaient cousues à la main avec des grosses aiguilles. Sans doute on se piquait les doigts, on travaillait nuit et jour. C'était dans le labeur et la peine. Ça devait pas être folichon, quoi. La première tente, on devait être tout content, mais la deuxième, c'était répétitif comme travail. Les gens lui demandaient, alors combien t'en fais? Oh, une et demie par jour. Il travaillait nuit et jour pour n'être à la charge d'aucune personne. Et encore une fois, il dit, ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit. Il aurait très bien pu rester à enseigner la parole et à recevoir de la nourriture, le logement de la part de l'Église. Mais il voulait donner un modèle à imiter. On fait souvent l'erreur de penser que le travail est une punition pour le péché originel. Dieu a donné du travail à Adam et Ève avant que Adam et Ève ne tombassent dans le péché. Il leur a donné du travail parce que c'est dans le travail que Dieu nous a créés pour nous épanouir. Dieu a créé le travail pour qu'on puisse s'épanouir. Nous avons été façonnés à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu qui bosse. Si vous avez jamais regardé une belle nuit étoilée, vous voyez l'étendue des cieux. D'accord, il l'a fait du bout de ses doigts, mais Dieu est un Dieu qui travaille. Et Paul voulait que ses fidèles, les fidèles de Thessalonique, travaillent dur. On peut se féliciter des avancées sociales qui ont fait que le travail est plus juste, plus justement rémunéré, que les gens sont moins exploités, mais ça n'enlève en rien le besoin de travailler du mieux que vous pouvez, le plus dur que vous pouvez pour votre employeur. Même si c'est l'État. Même si l'argent que vous payez avec vos impôts est gaspillé pour telle ou telle chose, vous allez glorifier le Seigneur si dans votre travail vous êtes un travailleur exemplaire. Et j'ai pas de patience pour les gens qui tirent au flanc. J'ai pas de patience parce que le Seigneur n'en a pas. Dans tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Vous devez vous exercer à faire absolument le mieux, même si c'est un travail répétitif, même si c'est un travail qui n'est pas passionnant, du moment que vous décidez de le faire de votre mieux pour la gloire du Seigneur, ça devient une aventure. Ça devient un travail passionnant. Votre patron vous demande de faire quelque chose, faites cette chose et faites-en plus. Sérieusement. Vous allez voir la différence. Votre attitude vis-à-vis du travail va complètement changer. Vous allez vouloir surprendre votre patron par la qualité, la quantité de votre travail. Et ça, c'est chaque chrétien devrait agir ainsi. Alors vous allez me dire, c'est ce que j'ai voulu faire. Mais les collègues m'ont repris. J'étais à la mairie de tel endroit, pleine de zèle pour travailler, mais les collègues m'ont dit « Oh, où tu vas, toi ? Tu vas pas à la tête ? Tu payes la même chose. » Alors, relax. Après, on va tous nous dire qu'on travaille pas assez si tu fais tout ce que tu veux faire, là. Il y en a qui ont déjà entendu ça ? Les autres veulent pas le dire. Mais la question, c'est est-ce que vous voulez plaire à vos collègues ou est-ce que vous voulez plaire à Dieu ? Vous dites à vos collègues, désolé, je travaille comme pour, si c'était le Seigneur. Et je vais bosser jusqu'à 5 heures parce que je dois travailler jusqu'à 5 heures. Je vais pas commencer à plier les bagages à 4h30. Et pourquoi est-ce qu'on aurait honte de faire ce qui est bien et qu'on se laisserait influencés par ceux qui tirent au flanc, par ceux qui profitent du système, par ceux qui sont des pique-assiettes. Une autre chose importante, c'est que Paul était pasteur, mais il travaillait. Il y a souvent des jeunes qui veulent rentrer dans le ministère, ils veulent aller à l'école biblique, et puis ils veulent tout de suite enseigner la parole, être pasteur ou missionnaire. Je dis toujours à ces personnes, allez d'abord bosser dans le monde du travail pour savoir ce que c'est, pour savoir quelles sont les attentes, quelles sont les exigences, quelles sont les contraintes, quelles sont les fatigues, quelles sont les déceptions qu'on trouve quand on veut bien travailler. Bosser, connaissez le monde du travail. Paul et les personnes qui l'entouraient, c'était des gens qui gagnaient leur vie. Et c'est un bon test. Commencez à servir le Seigneur à enseigner quand vous avez déjà un emploi. Faites-le en plus de votre travail. Pas pour avoir un... Oh, Pierre, c'est facile, il dit ça, mais il travaille que le dimanche matin. 2 heures et à peine. Hein. Après, il prend le café. Et... Ça, c'est un job comme ça. Hein. Honorez le Seigneur par votre travail, par la qualité, l'intensité, et vous allez voir que ça va tout changer. Que même le travail le plus pénible, le travail le plus répétitif, il prend une autre dimension. Parce que vous le faites pas pour plaire à un patron qui vous paye avec un lance-pierre, vous le faites pour plaire à Dieu. Et Dieu dit, ah ça c'est, je le reconnais là, c'est mon fils là qui bosse comme ça. C'est ma fille qui tire pas au flanc. Des conseils, c'est des vrais conseils, ça. C'est des réalités. Si vous appliquez au travail, non seulement vous ferez bien, et vous verrez qu'on vous confiera des tâches de plus en plus, d'autres responsabilités, et que vous aurez de la joie, vous prendrez plaisir à exercer les dons que le Seigneur vous a donnés. L'intensité, le sérieux dans le travail, brillez pour le Seigneur au travail. Ne vous laissez pas influencer par les tirs au flanc. Mieux vaut être mis à l'écart par les collègues de travail qui veulent pas bosser que de ne pas plaire à Dieu. Est-ce que vous en êtes convaincus de ça? Et je peux vous garantir que si vous commencez à bosser, il y a peut-être d'autres personnes qui vont dire c'est vrai. Et toute l'atmosphère au travail peut changer. Encore une fois, pas de travail, pas de bouffe. Pour être poli, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Certains de vous, ces gens qui croyaient que le Seigneur allait arriver d'un moment à l'autre et qui se disaient « bon, ben, c'est plus la peine de bosser, on monte sur le toit », on se demande pourquoi monter sur le toit, c'est par ailleurs qu'il en est question, pourquoi est-ce que ça allait faciliter l'enlèvement d'église, comme si le Seigneur pouvait pas, pourquoi pas aller sur une montagne, le Mont Blanc ou le Mont Ararat. Et ils attendaient qu'on vienne les nourrir et demander « hé, toi !» Ils vivaient dans le désordre. Encore une fois, ils ne suivaient pas l'armée au pas. Et ils faisaient une chose. C'est un jeu de mots en grec. Et c'est pas mal traduit dans la version à la Colombe. Au lieu d'agir, il s'agit. Est-ce que vous connaissez des gens qui font beaucoup de vent autour de vous? Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'ils ont accompli? Rien du tout. Ils ont parlé à tout le monde, ils ont suscité des réactions à droite, à gauche, mais est-ce qu'ils ont avancé sur leur dossier? Non. Nous ne devons pas nous agiter, nous devons agir. Est-ce que vous voyez la différence? Brasser du vent, c'est s'agiter. Et agir. La personne qui est tranquille, qui fait ce qu'elle a à faire, qui demande conseil, qui rapporte, qui fait des rapports à ses supérieurs, c'est bien. Alors, verset 13, il dit « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien ». C'est quelque chose qu'il dit à plusieurs reprises, Paul dans Galates, « Nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas, nous ne nous relâchons pas. » Quand on voit les gens autour de nous tricher et qu'on travaille bien, on se décourage. Toujours les mêmes qui bossent, et c'est vrai que c'est une règle mathématique, souvent c'est 20% des gens qui font 80% du travail. La règle des 20-80. Et on se décourage, on dit « Zut, je me suis levé, je suis arrivé à l'heure, j'ai bossé dur. » Et c'est l'autre qui a reçu la promotion. Parce qu'elle tchatchatchatch avec tout le monde, et on pense qu'elle faisait du travail, alors que c'est moi qui ai fait en fait les dossiers. Si j'étais pas là, les dossiers n'auraient pas avancé. Les ventes n'auraient pas été ce qu'elles ont été. Ne vous lassez pas de faire le bien. Encore une fois, si on fait le bien pour soi-même, pour avoir un intérêt, pour gagner quelque chose d'égoïste, la promotion, l'argent, l'augmentation, et qu'on ne l'obtient pas, alors là, on va se décourager. Et peut-être que ces personnes qui tirent au flanc, elles ont vu ça. Mais soyez l'agent de changement. Ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Continuez de bosser. Et puis, Paul va plus loin, il dit, écoutez, dans l'Église, je veux que tout le monde agisse ainsi. S'il y en a qui tirent au flanc, qui profitent des autres, s'ils n'obéissent pas à ce que nous disons dans cette lettre, ce que Paul a annoncé, là, au verset 6, il nous l'a annoncé, recommandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas un petit conseil, ça serait bien de travailler un peu plus dur, hein, ça sera mieux. Non, c'est, je vous dis, au nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, bossez dur. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez aucune relation avec lui afin qu'il en ait honte. Ben, c'est pas très charitable. C'est pas très chrétien comme attitude. Pourquoi ? Parce que c'est pour amener les gens à changer. Parce que Paul dit, ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Il ne s'agit pas de détester, de haïr ces gens qui tirent au flanc, mais de les reprendre dans l'amour de Dieu. Et peut-être qu'une façon de les reprendre, c'est de les tenir à l'écart. C'est pratique tous ces conseils, n'est-ce pas? Et je sais que dans une assemblée comme la nôtre, on n'est pas nombreux, mais il y a tellement de situations de travail différentes. Ce qui me frappe toujours, c'est que souvent on a des sujets de prière qui sont soumis à l'assemblée pour qu'on trouve le travail. Et puis, merci Seigneur, le travail est accordé, la personne trouve un travail. Et souvent, malheureusement, c'est pas longtemps après qu'il y a des requêtes pour demander que ça change au travail. Oh Seigneur, donne-moi du travail. Oh Seigneur, j'en peux plus de ce travail. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on contrôle pas, et qu'il n'y a pas de perfection, que les employeurs sont pas des anges. Qu'eux aussi sont mus par l'égoïsme, l'appât du gain. Mais si vous, en tant qu'employé, vous avez une attitude conforme à l'Écriture, vous avez le potentiel de tout changer dans la boîte, de tout changer dans le bureau de l'administration où vous travaillez. Et vous allez voir que, parce que vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu et vos employeurs vont vous confier de plus grandes choses. L'excellence, ça doit être votre but dans le travail. Pas de se contenter du minimum. Vous qui êtes à l'école, au lycée, au collège, appliquez-vous de tout votre mieux à vos études. Mon plus jeune fils qui comprenait pas qu'on soit pas satisfait quand il avait la moyenne. Mais j'ai la moyenne. C'est bon, ça passe. J'ai dit non, tu peux faire mieux. Apprends-toi à faire mieux. Parce que les habitudes que vous prenez au lycée, au collège, vont vous poursuivre toute votre vie. Si vous vous contentez de la moyenne, devinez quoi ? Vous allez être moyen. Votre vie va être moyenne. Et peu importe vos capacités, nous avons tous la capacité d'aller vers l'excellence. Utilisez tout ce que le Seigneur vous a donné, que ce soit peu ou beaucoup, au mieux. Et vous allez voir que la vie devient une aventure. Donc je veux entendre personne se plaindre du travail lundi, ok ? Il y avait un ancien sketch de Fernand Reynaud où le patron disait, il voulait que ses employés disent qu'ils s'amusaient au travail. Sans doute que Fernand Reynaud, un vieux comique français, n'avait pas lu ces passages. Mais c'était un peu vrai, au lieu de dire je turbine, c'est dur, je le fais pour Dieu. Alors il disait je m'amuse. Mais l'idée, c'est que si vous faites ça pour le Seigneur, tout va changer. Votre perspective sur le travail, sur les possibilités d'être un témoin au travail, parce que les gens vont dire, mais ça va pas, pourquoi tu fais ça? Parce que je le fais pour mon Dieu, qui peut être ton Dieu. Le Dieu auquel tu me demandes de prier parce que tu as un problème de santé, le même Dieu me dit de faire de mon mieux, il nous dit à tous de faire de notre mieux. Amen. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même, verset 16, la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Ça aussi, c'est un très beau verset. Au passage, c'est un 3-16. Vous savez, on a fait la remarque que souvent dans la Bible, il y a des versets qui ont une adresse 3, chapitre 3, verset 16. Et souvent, ces versets sont dignes d'intérêt. Le plus célèbre, Jean 3, 16, c'est que l'annonce de l'Évangile. Et voilà un autre 3, 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Ça, c'est le bien le plus précieux, d'avoir la paix avec Dieu, d'avoir la paix de Dieu. Il prie que le Seigneur soit avec eux tous, avec vous tous. Puis il termine en disant « La salutation est de ma main à moi, Paul. C'est ma signature dans toutes mes lettres, voilà mon écriture. » Il y avait ce problème de lettres qui avaient été soi-disant écrites par Paul. Paul, certains pensent qu'il avait une mauvaise vue, qu'il avait du mal à écrire, donc il utilisait un secrétaire auquel il dictait ses lettres, ses épîtres. Mais la plupart du temps, il les signait avec sa plume, et c'était une garantie, c'était une authentification de l'auteur. Et là, il dit la même chose. Voilà, je signe, et vous connaissez ma signature, c'est dans toutes mes lettres, voilà mon écriture. Et puis il termine, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Il a commencé par la grâce, il termine par la grâce. La grâce, cette faveur que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous donne. Cette faveur qui consiste non seulement à nous protéger, à nous bénir, mais aussi à nous donner des conseils de vie qui sont authentiques. Conseils sur la prière, sur comment le chrétien doit se comporter au travail. Et encore une fois, je sais, j'ai à ma connaissance des situations de travail difficiles, mais je vous encourage à essayer d'appliquer ces choses la semaine prochaine. Même avec la patronne ou le patron qui est comme un Satan personnifié, vous allez voir des changements. Non seulement dans les autres, mais vous allez voir que ça change tout pour vous, vous-même. Souvent, les gens disent « Oh, j'en peux plus de ce travail, j'en veux un autre. » Ils vont aller trouver un autre travail, mais s'ils n'ont pas changé la façon dont ils approchent le labeur, le dur labeur, nuit et jour, alors on ne nous demande pas de travailler nuit et jour généralement, Mais quand ils auront le deuxième travail, ils vont avoir les mêmes problèmes parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le travail répétitif, le manque de reconnaissance des patrons. Prenons Dieu au mot. Amen.